আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم l'amour pour le monde invocation d'Attar ô Allah azza wa jal quiconque lit ou écoute le livret l'amour pour le monde ne le rend pas dépendant de qui que ce soit autre que toi retire de son cœur l'amour pour ce monde Fais de lui un vrai dévot de ton messager, sallallahu alayhi wa sallam, et pardonne-lui sans qu'il n'ait à rendre de compte. Amin, bijahi khatamin nabijin, sallallahu alayhi wa sallam. Une excellente litanie pour les bénédictions en matière de subsistance. Un jour, un homme fit part de sa pauvreté et de son dénuement au dernier prophète d'Allah, notre maître, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le plus grand prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Fais le salam lorsque tu entres dans la maison, qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur ou non. » Puis présente ton salam à moi-même et récite Al-Ikhlas une fois. En faisant cela, Allah Azzawajal ouvrit les portes de la subsistance pour cette personne, lui permettant même d'en faire profiter ses voisins et sa famille. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad, le monde déguisé. Le Tabi'i, Humayd bin Hilal rahmatullah alayh, rapporte comment Ala bin Ziyad rahmatullah alayh a dit Une fois dans mon rêve, j'ai vu des gens courir après quelque chose. Moi aussi, je me suis lancé à sa poursuite. Lorsque j'ai enfin vu ce que c'était, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une vieille femme courbée et aux dents cassées. Elle portait des bijoux de toutes sortes et des vêtements luxueux. « Qui êtes-vous » ai-je demandé. Elle répondit « Je suis le monde ». J'ai alors dit « Je demande à Allah Azzawajal de placer de la haine pour toi dans mon cœur ». Elle s'exclama « Si tu détestes la richesse, tu développeras naturellement de la haine envers moi ». Dunya ko tu kya jane ye biski ghant hai harafa surat dekho zalim ki to kaisi bholi bali hai shahad dikhaye zeher pilaye qatil da'in shohar kush is murdar pe kya lalchaya duniya dekhi bali hai la poésie de l'imam Ahmad Reza Khan sur le monde L'imam Ahmad Reza Khan rahmatullah alayh a traité de la tromperie et de la nature illusoire de ce monde dans sa poésie Nous présentons ici un résumé de quelques couplets. Ô esclave d'Allah Azza wa Jal, que savez-vous de ce monde ? Il peut paraître modeste, mais c'est un bol de poison. Il est rusé et trompeur. Sa cruauté est telle qu'elle fait passer le venin pour du miel et qu'elle tue ceux qui l'aiment. Ce monde est pollué et ruiné. Il n'y a aucun bénéfice à y attacher son cœur. Et cela a été éprouvé. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. La signification de Dunya. L'imam Johari a dit... Le sens littéral de « dunya » est « proche ». La raison est soit qu'il est plus proche de l'homme que l'au-delà, soit qu'il est plus proche du cœur en raison des désirs et des plaisirs qu'il implique, les implications de l'amour de ce monde. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Un immense péché pour lequel les gens ne demandent pas pardon à Allah azza wa jal, c'est l'amour de ce monde. » Il est déclaré dans un autre hadith « Hubbu dunya ra'su kulli khati'ah » C'est-à-dire, l'amour du monde est la racine de tout péché. Le savant, Abdul Raouf Manavi Rahmatullah Alayh, écrit dans Faidul Qadir, « Il est prouvé par l'expérience et l'observation que l'amour de ce monde appelle à tous les péchés apparents et cachés, en particulier ceux qui sont centrés sur les affaires mondaines. Celui qui est épris de ce monde s'y perd, bien qu'il connaisse ses impuretés et imperfections. L'amour du monde conduit d'abord au sujet douteux, puis à ce qui est détesté, c'est-à-dire makruh, et enfin au haram. Dans les cas extrêmes, il peut même conduire à la mécréance. En fait, tous les gens qui ont rejeté leur prophète, alayhimus salam, ont mécru à cause de leur amour pour le monde. C'est la racine de tout péché, et c'est pourquoi on dit que ce monde est l'alcool de Satan. Celui qui y boit ne se dégrise qu'au moment de la mort, tout en éprouvant du remords et de la honte. Aimer ce monde est destructeur. L'amour pour lui ne disparaîtra pas du cœur de la plupart des gens, à l'exception de quelques-uns. L'imam Ghazali, rahmatullah alayh, a dit « Tout comme l'amour pour ce monde est la racine de tout péché, la haine pour lui est la racine de tout bien. » L'amour mondain et ses formes. Certains éléments du monde sont associés à la mécréance, d'autres au péché, et d'autres encore à la négligence. Inversement, certains éléments tournent autour de l'essence même de la foi. Le monde d'Abu Jahl était un monde de mécréance. Le lien du compagnon, Ousmane radiallahu anhu, avec le monde était basé sur l'essence de la foi. Le monde de Qaroun et Fir'aun était un monde de mécréance. L'association du prophète Suleyman alayhi salam avec ce monde était purement due à la foi. L'attachement à ce monde est réprimandable s'il tourne autour des désirs et de tout ce qui est satanique. En revanche, Si l'attachement à ce monde est fondé sur la foi et pour l'amour d'Allah Azza wa Jal, il est louable. Le mufti, Ahmad Yar Khan Naimi Rahmatullah Alayh, a déclaré « Une vie mondaine est une vie passée à satisfaire les désirs du nafs, c'est-à-dire du moi intérieur. Une vie consacrée à la préparation de l'au-delà n'est pas considérée comme mondaine, même si l'on vit dans le monde lui-même. Une vie mondaine est une chose, mais vivre dans le monde en est une autre. La vie dans ce monde aura une fin, mais une vie passée dans ce monde pour l'au-delà n'aura pas de fin. » Catégorie de ceux poursuivant ce monde. Ceux qui recherchent la richesse de ce monde pour maintenir de bons liens avec leurs proches et aider les pauvres sont considérés comme généreux. Si leurs actions correspondent à leurs intentions, ils seront récompensés. Malgré cela, on dit que ces personnes manquent d'intelligence. Car une personne intelligente ne désire pas quelque chose qui changera son état en une condition inconnue après l'avoir acquis. Les personnes qui acquièrent des richesses dans cette intention devraient s'inspirer de l'histoire de Sarlaba. L'histoire de Sarlaba. Un individu du nom de Sarlaba demanda au noble prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer pour lui afin qu'il devienne riche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant reçu d'Allah azza wa jalla la connaissance de l'invisible, répondit « Ô Sarlaba, un peu de richesse pour laquelle tu peux être reconnaissant vaut mieux qu'une grande quantité pour laquelle tu ne peux pas. » Se présentant à nouveau devant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sarlaba fit la même demande. « Je prête serment à celui qui t'a envoyé en tant que vrai prophète. » S'il m'accorde la richesse, je donnerai à tout le monde le droit qui lui revient. Le plus grand prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invoqua pour lui, de sorte qu'Allah azza wa jal bénit ses moutons en si grande quantité que la ville ne pouvait pas les accueillir tous. Sarlaba les emmena avec lui dans le désert et quitta totalement Madina, ce qui eut pour conséquence de l'empêcher d'assister à la prière en congrégation et à celle du Jumu'ah. Le plus grand prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est enquis de lui, ce à quoi les compagnons, alayhim ridwan, répondirent que sa richesse avait beaucoup augmenté, au point que même le désert n'était pas assez grand pour la contenir. Le plus grand prophète, sallallahu alayhi wa sallam, exprima sa déception à son égard. Plus tard, lorsque le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demanda à des individus de collecter la zakat, les gens l'acquittèrent avec joie. Cependant, lorsque Sarlaba fut approché, il répondit en disant qu'il s'agissait d'une taxe et qu'il y réfléchirait d'abord. Lorsque les individus revinrent voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il exprima sa déception à l'égard de Sarlaba à deux reprises avant même qu'il n'ait dit quoi que ce soit. Le verset suivant fut alors révélé. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Traduction de Kanzul Iman. Et parmi eux, il y en a ceux qui ont fait promesse à Allah que s'il nous accorde par sa grâce, alors nous ferons certainement la charité et nous deviendrons certainement des bonnes personnes. Alors, lorsqu'Allah leur accorda par sa grâce, ils commencèrent à en être avares et se détournèrent en tournant le visage. Sarlaba finit par arriver avec sa charité, ce à quoi le très grand prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah azza wa jal m'interdit d'accepter cela ». Sarlaba s'en retourna déshonoré. Sa richesse fut alors apportée au premier calife de l'islam, Abu Bakr radiallahu anhu, durant le califat de ce dernier. Elle fut de nouveau rejetée. Elle fut à nouveau présentée sous le règne du deuxième calife de l'islam, Umar bin Khattab radiallahu anhu. Le résultat fut le même et elle fut refusée. Sarlaba mourut finalement pendant le califat de Ousmane bin Affan radiallahu anhu. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad. La deuxième catégorie de personnes poursuivant ce monde. La deuxième catégorie de ceux qui poursuivent ce monde se divise à son tour en deux. La première, ceux qui poursuivent le monde en souhaitant satisfaire leurs désirs et se gratifier des plaisirs mondains. Ces personnes sont perçues comme animales. Numéro 2, ceux qui poursuivent le monde pour se montrer fiers devant les autres et se distinguer par leur richesse. Ces personnes sont considérées comme absurdes, trompeuses et maudites. Le sort de ceux qui aiment ce monde. Sayyidina Ibn Abbas a dit « Le jour du jugement, le monde se présentera sous la forme d'une vieille femme disgracieuse, aux yeux mal tournés et aux dents saillantes vers l'avant. » On la dirigera vers les gens et on leur demandera « La reconnaissez-vous ?» Ils répondront « Nous cherchons refuge auprès d'Allah Azza wa Jal de la reconnaître. » Il sera annoncé « Voici le monde dont vous étiez fiers. À cause de lui, vous avez rompu les liens familiaux. Vous vous êtes jalousés les uns les autres. Vous avez entretenu l'inimité et l'arrogance. » Le monde sera alors placé en enfer et il dira « Monseigneur, où sont ceux qui m'ont écouté ? Où est mon groupe ?» Allah Azza wa Jal déclarera « Placez-les à côté d'elle, l'univers. » Les trois facettes du monde. Numéro 1. La première facette consiste en la récompense. C'est par elle que l'homme accède au bien et se protège du mal. C'est un moyen de transport pour le croyant, un champ à récolter pour l'au-delà et une nourriture halal qui suffit. Numéro 2. La deuxième facette concerne l'examen des comptes. C'est grâce à elle que l'on ne manque pas aux devoirs prescrits et que l'on ne fait rien d'inadmissible dans la poursuite du monde. Les riches font partie de cette catégorie. Pour eux, l'examen des comptes aura une longue durée et les pauvres entreront au paradis 500 ans avant eux. La troisième facette est celle de la punition. Dans ce cas, l'individu néglige tous les devoirs nécessaires et s'adonne au péché. Cette catégorie rapproche l'individu de l'enfer et le laisse dans un état de regret. L'insignifiance des luxes de ce monde. Le compagnon, Abu Dharr, radiallahu anhu, a dit « Le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut un jour à l'ombre de la Kaaba lorsque je me rendis auprès de lui. Lorsque son regard se posa sur moi, je l'entendis alors déclarer « Ce sont les plus grands perdants. J'en fais le serment devant le seigneur de la Kaaba. » Je me suis assis près de lui, alors qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, répétait cela plusieurs fois. Je me suis alors levé et je demandai « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Qui sont ces gens que vous mentionnez ?» Le plus grand prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Ce seront des gens aisés et riches, à l'exclusion de ceux qui dépensent sans compter pour de nobles causes. Ils seront peu nombreux. Quiconque possède un chameau, une vache ou un mouton et ne s'acquitte pas de la zakat, cet animal apparaîtra plus grand et en meilleure santé le jour du jugement, et commencera à éventrer son propriétaire avec ses cornes et à le piétiner avec ses sabots. Cela se poursuivra jusqu'à ce que l'examen des comptes des gens soit terminé. » Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. Répondre à la ruse de Satan. Certaines personnes sont trompées en pensant que peu importe leur engagement dans les affaires mondaines, leur cœur n'y sera pas attaché. C'est la ruse de Satan. Comment quelqu'un peut-il plonger dans une rivière sans se mouiller? Ce monde ressemble à de l'eau salée. Plus on en boit, plus on a soif. Penser que les richesses de ce monde apporteront le bonheur est une folie. Car comment être heureux dans un endroit où l'on ne va pas rester éternellement? Éviter l'amour du monde. L'attachement au monde est de deux types. Le premier est haram, car il absorbe l'individu dans des affaires mondaines qui le conduisent au châtiment dans l'au-delà. Le second est halal, bien qu'il constitue un obstacle à l'obtention d'une position élevée. Cela conduira également une personne à devoir rendre compte de ses actes pendant une longue période. Une personne intelligente reconnaît que le fait de devoir rester debout pendant une longue période le jour du jugement est également une forme de punition. En bref, quiconque est tenu de rendre des comptes s'expose également à un châtiment. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à propos de ce monde « Il y a un compte à rendre pour ce qui est halal et un châtiment pour ce qui est haram. » Il, sallallahu alayhi wa sallam, a également mentionné le châtiment sur le halal du monde, même s'il est plus faible que le châtiment pour le haram. Même sans avoir à répondre de ses actes, le fait de manquer les hauts rangs du paradis et d'éprouver du chagrin pour ce bas monde temporaire est également une punition. Alors que vous êtes dans ce monde en ce moment, prenez un moment pour réfléchir à ce qui suit. Lorsque vous voyez des gens qui vous devancent dans les affaires du monde, demandez-vous quel niveau de tristesse se développe dans votre cœur, bien que vous sachiez qu'il s'agit de privilèges temporaires, insignifiants et impurs. Ils n'ont pas un atome de pureté en eux. En revanche, quelle tristesse doit-on éprouver à manquer des privilèges qui ne peuvent être décrits? Des siècles ont passé, mais ils sont restés debout. En conclusion, répondre à des questions le jour du jugement implique l'attente, l'humiliation, la peur, le risque et la difficulté. Tout cela est une cause de perte dans l'au-delà. Que l'on possède un peu de ce monde ou beaucoup, qu'il soit halal ou haram, il est maudit s'il ne tourne pas autour de la piété. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal a fait subir au prophète alayhimus salam, au saint rahimahumullah, et à ceux qui suivirent et qui étaient proches de lui, des épreuves à des degrés différents. Tout cela est une forme de bonté qui leur est accordée afin qu'ils reçoivent une grande part dans l'au-delà. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. Éliminer l'amour du monde de son cœur. Le fait de se préoccuper de l'au-delà et d'en être conscient tout en étant occupé par des affaires mondaines éliminera l'amour du monde de votre cœur. C'est ce que l'on appelle la vraie piété. Elle rapproche une personne d'Allah Azza wa Jal pour toujours. Dans les affaires du monde, regardez toujours ceux qui sont dans une situation pire que ceux qui sont dans une meilleure position. Car Satan essaie toujours de nous faire regarder les autres qui sont mieux lotis. Amir Ahl Sunnat, Mawlana Muhammad Ilyas Attar Qadri a dit un jour « Quiconque obéit continuellement à Allah Azza wa Jal et à son plus grand et dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le monde le servira continuellement. » Un moyen efficace de se débarrasser de l'amour du monde. L'imam Razali rahmatullah alayh explique ce qui détache une personne du monde et l'amène à distribuer ses richesses. Il s'agit de Réfléchir aux épreuves et aux imperfections de ce monde. Se rappeler que le bénéfice du monde est très faible et qu'il prendra fin très bientôt et que ceux qui le poursuivent sont vils. Reconnaître qu'Allah Azza wa Jal vous a accordé de nombreuses bénédictions bien que vous n'ayez pas dépensé dans son chemin en fonction du montant qu'il vous a accordé. En réfléchissant bien à ces questions, il vous sera plus facile de vous détacher du monde et de donner de la richesse. Rappelez-vous également que le monde est un ennemi d'Allah Azza wa Jal et que vous l'aimez. Quiconque aime et se lie d'amitié avec quelqu'un considère également son ennemi comme s'il était le sien. Le monde est pourri. Ne voyez-vous pas ces délicieux aliments s'éteindre et commencer à sentir mauvais au bout de peu de temps? Le monde est masqué par un parfum agréable, mais il est comme une charogne. En voyant son apparence, les négligents tombent dans le piège de la tromperie, tandis que les intelligents s'en éloignent. Le Tabi, Rabbi bin Khusaym, rahmatullah alayh, a dit « Ôtez de vos cœurs l'amour du monde et remplacez-le par l'amour de l'au-delà. » La différence entre la piété et la pauvreté. Si le monde se détache d'une personne, il s'agit de pauvreté. En revanche, si une personne se détache du monde, c'est-à-dire que si elle reçoit des richesses, elle ne les aime pas et s'en éloigne, on parle alors de zohod. Une personne qui possède cette qualité est appelée zahid, quelqu'un qui se désintéresse du monde, l'excellence du zohod. Le compagnon béni, Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Regardez ceux qui sont en dessous de vous et non pas ceux qui sont au-dessus de vous. » C'est un splendide conseil, afin que vous ne perdiez aucune des bénédictions d'Allah azza wa jal. Salman Farsi, radiallahu anhu, également compagnon, a dit un jour « Lorsqu'une personne se désintéresse du monde, son cœur s'illumine de sagesse et son corps l'aide dans l'adoration. » Trois niveaux de Zohod. Ibrahim bin Adam, rahmatullah alayhi, a proclamé Le zohod comporte trois niveaux. Le premier niveau est celui de l'obligation, qui consiste à s'abstenir de ce qu'Allah Azza wa Jal a déclaré haram. Le deuxième niveau est celui de la sécurité, où l'on s'abstient de tout ce qui est douteux. Quant au troisième niveau, il permet d'atteindre l'excellence, et c'est à ce niveau que l'on s'abstient même de ce qui est halal. Il s'agit d'un niveau exceptionnel de zohod. Les signes de piété. Numéro 1. Ne pas se réjouir de ses biens et ne pas s'attrister de ce que l'on n'a pas, cela indique la piété en matière de richesse. Numéro 2. Percevoir comme égaux quelqu'un qui vous critique et quelqu'un qui vous loue, c'est un signe de piété par rapport au rang. Numéro 3. Avoir de l'attachement pour Allah Azza wa Jal et éprouver la joie d'être immergé dans l'obéissance au Créateur. Les types de zohod. L'augmentation de l'adoration et de sa qualité sont les sous-produits du zohod. Il est important pour celui qui est en quête d'adoration de ne pas avoir d'intérêt pour le monde. Le zohod lui-même est de deux types. Numéro 1, la discrétion. Il s'agit de ne pas désirer ce que l'on n'a pas, de distribuer ce que l'on a et de ne pas rechercher le monde et son luxe. Quiconque possède ces trois qualités est pieux. Cultiver la troisième qualité, c'est-à-dire ne pas rechercher le monde et son luxe, est très difficile. De nombreuses personnes semblent ostensiblement posséder ce trait de caractère. Mais l'amour de ce monde leur mord le cœur, les laissant en proie à la lutte. La grandeur de la piété découle de cet aspect de non-poursuite du monde. Numéro 2, le non-discrétionnaire. La piété de ce type est basée sur le fait que le cœur est dépourvu d'intérêt et de pensée mondaine. Lorsqu'une personne poursuit une piété discrète en ne désirant pas ce qu'elle n'a pas, en donnant ce qu'elle a et en ne recherchant pas le luxe mondain, son cœur se vide de tout intérêt mondain. Le monde semble insignifiant à une telle personne et les questions mondaines ne lui viennent pas à l'esprit. C'est ce qu'est la piété non discrétionnaire. Les rangs du zohod. Numéro 1. Où une personne se désintéresse du monde, mais avec difficulté. Malgré ses désirs, elle se désintéresse du monde. Une telle personne est un mutazahid. Il est possible qu'en persévérant, dans cette voie, un individu atteigne la piété. Numéro 2. Se détacher joyeusement du monde. Il s'agit de considérer le monde comme inférieur et, de ce fait, de renoncer à ses désirs. Par exemple, prendre avec bonheur une pièce d'or au lieu de deux. Ce n'est pas difficile pour quelqu'un qui a ce trait de caractère. Cependant, l'attention d'une telle personne reste constamment fixée sur le monde et sur son nafs, car elle pense qu'elle a abandonné quelque chose d'important. Bien qu'il s'agisse également de piété et de zohod, cela comporte un risque de perte. Numéro 3. C'est le rang le plus élevé, dans lequel une personne accepte volontiers le zohod et déploie des efforts considérables pour y parvenir. Ici, l'individu n'est nullement perturbé par le fait d'avoir quitté le monde, car il sait que celui-ci est insignifiant et n'a aucune importance par rapport à l'au-delà. La grandeur de ce rang consiste à devenir indifférent à tout pour chercher l'agrément de son Seigneur. La force motrice qui permet d'accomplir cela est le désir ardent de voir Allah Azza wa Jal et la compréhension du renoncement à tout autre bienfait. Outre le nikah, il convient d'acquérir de la nourriture, des vêtements et une résidence en fonction de ses besoins. Il s'agit là d'un véritable zohod. Comment l'acquérir? Le zohod implique d'éviter tout ce qui est futile, surplus et non nécessaire. L'énergie et la force doivent être suffisantes pour permettre l'adoration et l'obéissance à Allah Azzawajal. Manger et boire pour le plaisir n'est pas notre objectif. Allah Azzawajal a le pouvoir de vous maintenir en vie sans moyens apparents, tout comme les anges sont en vie sans aucun moyen matériel. Allah Azzawajal a également la capacité de vous maintenir en vie avec ce que vous avez, ou en vous accordant quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Si vous restez résolument pieux, vous n'aurez pas besoin de vous efforcer de gagner de l'argent pour rester en vie. Si vous n'avez pas atteint ce niveau de zohod, recherchez-le avec l'intention de devenir vertueux et de préparer la provision pour l'au-delà. N'entreprenez pas ce voyage pour satisfaire vos désirs ou trouver du plaisir, car cela sera considéré comme une action accomplie pour votre au-delà si votre intention est saine. De cette façon, votre zohod restera à l'abri des effets négatifs. Parfois, la crainte de l'enfer et du châtiment qui s'y trouve devient un motif de zohod. C'est ce qu'on appelle le zohod du khaifin. La joie de l'au-delà et de ses bénédictions peut conduire à adopter le zohod. C'est le zohod des rajin, et il est plus grand que la première catégorie. Le troisième type est le meilleur, dans lequel le zohod est atteint en ne se concentrant sur rien d'autre qu'Allah Azzawajal, et lorsque le nafs abandonne toute autre chose que lui Azzawajal, parce qu'il la considère comme insignifiant. C'est le zohod dans son essence originelle. Un état supérieur au zohod. Considérer que l'on a le même mérite que l'on soit riche ou non, c'est un état encore plus grand que le zohod. Une personne possédant cette qualité ne se sent pas heureuse lorsqu'elle obtient de l'argent, ni lésée, et son état est le même si elle ne reçoit rien. En fait, l'état d'une telle personne devient comme celui de Sayyidatuna Aisha radiallahu anha, lorsque quelqu'un lui fit don de 100 000 dirhams qu'elle accepta et distribua le jour même. Sa servante lui dit, « Si vous aviez gardé un dirham de la richesse que vous avez distribuée aujourd'hui pour acheter de la viande, nous aurions pu l'avoir pour l'iftar. » Sayyidatuna Aisha radiallahu anha répondit, « Si tu me l'avais rappelé, je l'aurais fait. » Une personne devrait être appelée « Mustarni » si elle avait le monde entier en sa possession, mais que cela ne lui cause aucun mal, parce qu'elle considère la richesse comme un trésor de la part d'Allah Azzawajal, par opposition au fait qu'elle soit en sa possession. Cette personne ne voit aucune différence entre le fait que la richesse lui appartienne ou qu'elle appartienne à quelqu'un d'autre. Elle ne se préoccupe pas d'avoir ou de ne pas avoir d'argent. La perfection dans le zohod. Accorder la même valeur à la richesse et à l'eau est un niveau sublime de zohod en matière de richesse. Le fait qu'une grande quantité d'eau se trouve à proximité d'une personne ne lui nuit pas, comme on peut le constater en observant quelqu'un qui vit le long d'un rivage. De même, une petite quantité d'eau n'est pas nuisible tant qu'il y en a suffisamment pour répondre aux besoins. L'eau est indispensable à l'homme. Nous ne dédaignons pas une grande quantité d'eau et nous ne la négligeons pas non plus. Nous disons plutôt que nous la buvons selon nos besoins, que nous la donnons à boire aux autres et que nous ne sommes pas avares à cet égard. La richesse devrait également être perçue de la même manière par les gens. Le fait d'en avoir ou de ne pas en avoir ne devrait pas les affecter. Lorsqu'une personne prend connaissance d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire la marifa d'Allah Azzawajal, et qu'elle est honorée de lui confier son affaire, c'est-à-dire le tawakkul, elle devient certaine qu'elle recevra une subsistance suffisante aussi longtemps qu'elle vivra, de la même manière qu'elle reçoit de l'eau. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad.